qu'aucun général romain n'aurait établi de campement à un endroit où l'eau faisait défaut. N'oublie pas qu'une légion romaine était composée de milliers de soldats. À Tarraco, il y avait la rivière Francoli, qui coulait tout près, et un lac souterrain. Maintenant, essaie de faire un saut dans le temps et imagine ce qu'a pu représenter la consommation d'eau potable une fois que Tarraco fut devenue capitale provinciale. À cette époque, il fallait acheminer l'eau depuis deux rivières, la Francoli et la Gaïa. Comme tu peux le voir sur l'image qui est sur le mur, une partie des conduits était en pierre. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. Quels grands ingénieurs, ces Romains! C'est ce que tout le monde pense en voyant un aqueduc. Mais je peux te dire que la plupart de ces ingénieurs auraient été bien incapables de tisser une toge. Une fois purifiée, l'eau était distribuée dans toute la ville au moyen de canalisations en plomb, comme celle-ci. Nous, les Romains, nous utilisions beaucoup le plomb, beaucoup trop. Je profite de la présence de ces statues pour t'expliquer comment les gens bien devaient se montrer en public. Avant que tu ne poses la question, je tiens à préciser une chose. L'objectif n'était pas de porter une tenue pratique. Par exemple, une femme de mon rang pouvait se permettre le luxe de n'occuper ses mains qu'à retrousser sa robe, par exemple, au moins un moment. Rien qu'à sa tenue, on savait quel était le rang de la personne. Pour sortir, les femmes se couvraient d'une palla et les hommes d'une toge. Une fois dépliée, la toge faisait trois fois la taille d'un homme. Une toge ouverte avait la forme d'un demi-cercle au pan coupé, de sorte qu'il n'y avait que deux pointes. Elle devait se porter de façon à former deux poches, une petite à la hauteur de la taille et une plus grande qui tombait sur le genou. Il paraît que de vos jours, dans certaines professions, on porte la toge, même les femmes respectables. Il existait des toges de différentes sortes. Regarde la petite statue, par exemple. Elle représente un enfant. Je ne dis pas ça à cause de la taille de la statue, mais parce qu'il porte encore son pendentif amulette autour du cou. C'est ce qu'on appelle la bulla. Si la statue n'avait pas perdu sa polychromie, on verrait que la toge du jeune garçon est bordée de couleur pourpre. Ce genre de liseré indiquait qu'il appartenait à une famille riche. Les toges étaient faites d'une étoffe de laine, que les femmes tissaient elles-mêmes à la maison du temps de mes ancêtres. On raconte que, quand il recevait des visites, Auguste demandait à sa femme de tisser pour entretenir les coutumes traditionnelles. Auguste savait que, pour tenir un empire, la propagande est aussi importante que les cuirasses, voire plus. Propagande, encore un mot latin. Les statues de la famille impériale participaient des campagnes de propagande. Tu vois cette image qui représente un théâtre? C'est notre théâtre, celui de Tarraco. Regarde où sont placées les statues. Les spectateurs avaient toujours face à eux l'image de ce qui, de loin, veillait sur eux et sur leur infrastructure. Sais-tu qu'Auguste a essayé de reléguer les femmes au dernier rang du théâtre? De son vivant, il n'y est pas arrivé, et plus tard, guère plus. À votre époque, vous considérez toujours le théâtre comme un art sacré? Dans le théâtre de Tarraco, il y avait un autel dédié à la déesse Vénus, avec la petite statue que tu peux voir dans la vitrine. Les membres de la dynastie julienne prétendaient descendre de Vénus, à travers Énée, l'un des héros de la guerre de Troie. Tu vois, la célèbre Énéide n'était pas seulement un poème épique. Elle faisait aussi partie de la campagne de propagande impériale. D'ailleurs, Virgile aurait pu s'abstenir de dire que « la femme est toujours un être inconstant et changeant ». Allez, viens, changeons de salle.
La tonne immobile.